territoire. Le ministre de la Santé a confirmé dimanche dernier une épidémie d'Ebola à Djera dans les territoires de Boende dans la province de l'Équateur. La synergie des syndicats de l'enseignement pose des préalables pour une rentrée scolaire apaisée sur l'ensemble du territoire national. Pour cette synergie, il n'y a pas de rentrée scolaire tant que le gouvernement n'aura pas dit clairement combien de crédits il met pour la rémunération des enseignants pour l'année 2015. Tels sont les thèmes de ce soir dans Tribune de la Presse. Nous avons autour de cette table Joachim Diana, éditeur du journal La Colombe, quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Joachim Diana.
Bonsoir.
Marcel Moï, éditeur du journal La Prospérité, c'est un quotidien aussi qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Marcel Ngoï.
Bonsoir Guy Maté.
Et Jean Dombassi, manager de la radio communautaire de Mwanda au Bas-Congo, RSM. Bonsoir Jean Dombassi.
Oui, bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission. L'épidémie d'Ebola déclarée à Djera dans la province de l'Équateur, les enseignants posent des préalables pour la prochaine rentrée scolaire. Alors comment la presse a traité ces informations? Suivons cette revue de presse avec Kéline Couté.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par la confirmation de la présence du virus d'Ebola en RDC. Ebola, le plan de riposte de Kabila. C'est la une du journal La Prospérité. Ebola tue, le gouvernement prend ses responsabilités. C'est le résumé que la consoeur fait du compte-rendu du Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État mardi dernier. Ebola a déjà fait 13 morts dont 5 agents de santé. 147 personnes identifiées comme proches des malades sont suivies, renchérit le tabloïd. Pour sa part, le journal Forum des As rapporte toujours à propos d'Ebola. Le gouvernement invite la population à ne pas céder à la psychose. Le secteur de Djera est mis en quarantaine. Tous les ports et aéroports de l'Équateur sont dotés des thermomètres laser. C'est ainsi que le quotidien L'Avenir signe à la une. Fièvre attribuée à Ebola à Kinshasa et à Mbandaka, gare aux fausses rumeurs. Population et partenaires invités à ne pas céder à la psychose. Changeons de chapitre pour parler enseignement. À 10 jours de la rentrée scolaire, la synergie des syndicats de l'enseignement pose des préalables pour une rentrée apaisée sur l'ensemble du territoire national. C'est ce qu'on peut lire sur www.radiocapit.com. Dans une déclaration en fait à l'issue de l'Assemblée générale tenue jeudi 28 août à Kinshasa, cette synergie demande au gouvernement congolais d'améliorer les conditions de l'enseignant. Selon le secrétaire général de la Centrale congolaise du travail CCT en sigle, Rachidi Modeste Kayombo, il faut que l'augmentation de la part de l'éducation dans le budget ait un impact sur la situation des enseignants. Autre sujet qui en fait l'actualité cette semaine, c'est la visite à Kinshasa de Saïd Djinit, nouvel envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Grand Lac à Kinshasa. La réunion de la majorité présidentielle à Kingakati, mais aussi l'affaire Tchebea. La justice sénégalaise a ouvert mardi 26 août une information judiciaire sur cette affaire.
Merci, Kéline Couté. Joachim Diana, je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Colombe, c'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. L'actualité, c'est aussi ce sit-in que les journalistes organisent à l'archevêché pour réclamer la libération de Mike Mukebai, éditeur des Congo News.
Oui, tout à fait. Je suis de cœur avec Mike et aussi d'accord que les journalistes puissent organiser des activités pour que les confrères puissent être libérés. Même si je suis d'avis que nous aurions dû commencer par constituer une délégation qui devra aller voir le cardinal, que les sit-in sont déjà d'actions, c'est vrai, des pressions, mais qui ne peuvent pas apporter de fruits immédiats. Quiconque a expérimenté la prison sait que Mike n'est pas à son aise là où il est. Il faudrait des actions intelligentes pour libérer au-delà de tout ce que nous pouvons faire comme bruit parfois.
Et le sit-in n'est pas une action intelligente?
Vous voyez, le sit-in, il a fallu de quelques 15 minutes pour qu'on vous disperse, on vous mène dans les cachots et puis c'est terminé.
Mais on sent qu'il y a quand même une pression qui est
faite.
Tout
à fait, la pression, nous sommes des hommes des médias, dans nos journaux, dans notre... Nous pouvons faire cette pression-là. Entre-temps, nous faisons des actions concrètes. Par exemple, constituer une délégation, aller voir le cardinal, obtenir de lui ce que nous voulons. C'est-à-dire quoi ? ramener son frère, le sénateur Kani, qui a retiré la plainte, par exemple.
Merci. L'autre actualité, c'est la réunion lundi dernier à Kingakati de la majorité présidentielle au sujet du débat sur la révision constitutionnelle. Chaque parti a gardé sa position. Le MSL a gardé sa position, ainsi que les camps des révisionnistes ont gardé aussi leur position.
Ben oui, tout à fait. Moi, je suis un peu surpris, parce que je comprends maintenant, ce qui concerne le MCR, que lorsque le MCR s'était prononcé avant la réunion de Kingakati, ce n'était pas pour dire que non, ne vous prononcez pas, parce que si nous devons avoir une position là-dessus, ça doit être une position concertée. Ce qui veut dire que le MCR avait déjà sa position et voulait l'imposer aux autres, voulait interdire aux autres d'avoir leur position. La preuve, c'est que on est allé à la réunion, il a maintenu sa position qu'il avait déjà avant même de concerter le chef de l'État. Or, il a dit personne ne peut parler au moment où le chef de l'État ne s'était jamais prononcé. Mais lui, cette position de dire non à la révision constitutionnelle ou au changement de la constitution, il a eu ça. Ce qui veut dire, si lui, le MCR, a le droit de dire que selon mes analyses, on ne peut pas faire la révision, on ne peut pas changer la constitution, les autres ont aussi le droit de dire que selon nos analyses, nous disons qu'on doit le faire. Mais alors, je vois très mal son action qui était avant de dire aux gens pourquoi vous parlez alors que le chef ne s'est jamais prononcé. Avant que le chef se prononce, lui avait déjà une position qu'il est allé défendre au cours de la réunion. Vous voyez, c'est de ce côté qu'il y a le côté ambigu.
Merci Marcel Ngoï, éditeur du journal La Prospérité, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Et les journalistes réclament la libération de Mike Mukebai à travers certaines actions telles que le sit-in. Mais vous avez suivi Diana qui estime que le sit-in n'est pas une action intelligente. Il faut plutôt envisager de rencontrer le cardinal Mosengo pour que celui-ci puisse demander à son frère de pouvoir retirer la plainte.
Oui, mais il ne faut pas faire dire à Diana ce qu'il n'a pas dit. Diana dit que le sit-in, c'est une action de tape à l'œil. Et que, au bout d'un temps, on peut disperser les gens. Surtout si cette action n'a pas été autorisée par la hiérarchie de ceux qui maintiennent l'ordre public.
Et il estime que c'est pas une action intelligente.
Non, il dit que c'est une des actions, bien sûr, mais il faut plutôt être une action efficace. Ça veut dire constituer, par exemple, une délégation. C'est ce qu'il dit, lui. J'ai l'avantage de participer à cette émission avec Diana, qui a été aussi arrêtée.
Voilà.
Dans une autre affaire. Il a l'expérience de la prison. Il en sait.
Il y a eu des pressions qui ont été faites par les journalistes pour qu'il soit libéré.
Que c'est pas forcément en faisant des sit-ins, parce que effectivement cette affaire a une genèse. Lorsque vous voyez combien l'UNPC à l'ouverture de son 8e congrès a voulu constituer une mission de bons offices qui à un moment n'a pas pu évoluer parce qu'il y a eu divergence de vues entre cette mission qui aurait pu s'occuper de Mike et Mike lui-même. Lorsque vous voyez la déposition de l'OMEC au sujet de la même affaire, vous comprendrez que ce n'est pas très facile que FFJ seul, sans synergie avec les autres ONG, les autres structures de la presse, puisse faire grand chose. Ce qui est important, c'est qu'effectivement il y a une pression qui est relancé.
Qu'est-ce qui serait efficace?
Ce qui serait efficace, on l'a fait lorsque, autrefois, on avait arrêté dans ce pays un certain Michel de la Dilouya. Il y a eu une grande marche. Cette marche, ce n'était pas le fait d'une ONG. C'était toutes les organisations corporelles réunies. Et ce n'est pas la première fois. Lorsqu'on a tué Ngik, nous avons fait des marches ici. Ça veut dire qu'il y a quand même des actions qui peuvent être menées, mais c'est en synergie. J'insiste sur le fait que s'il y a pression à exercer, c'est en synergie avec les autres ONG. Mais cela n'exclut pas qu'on puisse constituer des missions secrètes, des gens qui ont une certaine notoriété, qui sont connus, qui ont une certaine expérience, pour approcher l'autorité du cardinal. Parce que le problème, l'article concerné, cet article met en cause le cardinal. Et donc, le cardinal a beau faire d'utiliser tel ou tel autre dans l'affaire, même le communiqué de l'archevêché n'épuise pas les débats. Il faut absolument que le cardinal, d'une manière ou d'une autre, qu'il soit saisi. Et pour qu'il soit saisi, le sit-in est une des expressions, mais je pense que le mémo qui a été préparé ce matin n'est même pas parvenu au cardinal, parce qu'ils ne l'ont pas déposé, il y a eu la dispersion. Kazad l'a confirmé sur les antennes de Top Congo, peu avant que je n'entre dans ces studios. Donc c'est pour vous dire tout simplement qu'il faut diversifier, il faut multiplier des actions, pourvu qu'on obtienne la libération de Mike.
Et un mot par rapport à la réunion de Kingakati lundi dernier.
Cette réunion de Kingakati démontre tout simplement qu'il n'y a pas eu de consensus à Kingakati. Le consensus, l'absence de consensus ne veut pas dire qu'on ne peut pas forcément s'aligner ou accepter le point de vue des autres. Il y a eu effectivement deux sons discordants. La vérité, c'est qu'à Kingakati, il n'y a pas eu de débat. il y a eu des interventions. Les personnalités sont intervenues. Chacune des personnalités représentant un parti ou tout ça, il y a eu des interventions au bout desquelles le président a conclu. Il a conclu et au moins on sait le mérite de Kingakati lundi, c'est que le président a pris position. Il est
clairement
pour les pro-révisionnistes. Voilà. Ce qu'on peut retenir de Kingakati.
Donc on peut mettre fin à ce débat.
C'est un débat qui est clos parce qu'on connaît, maintenant on sait que le président est pour la révision constitutionnelle. Et que ceux qui ne s'alignent pas peuvent être considérés comme des traîtres, comme de peureux, comme des personnes qui ne sont pas dans la ligne tracée. Alors il reste à ce moment-là de tirer toutes les conséquences. Ça veut dire quoi ? On peut pousser soit les gens à s'éjecter, soit à les éjecter.
Merci Jean Dombassi, manager de la radio communautaire de Mwanda au Bas-Congo. À Kingakati, il n'y a pas eu de consensus.
Oui, c'était prévisible, mais dans tout ça, division entre révisionnistes et anti-révisionnistes, c'est une expression dans un système démocratique. Seulement chez nous en Afrique en général et en RDC en particulier, ce genre de débat semble vouloir monopoliser l'attention générale alors qu'il y a des défis autrement importants à relever dans notre pays, entre autres la pauvreté, le chômage, les problèmes de santé, la sécurité, j'en passe. Donc, le souhait est que les législateurs pensent à rédiger des textes légaux qui puissent s'appliquer à toutes les circonstances. On éviterait tout ça.
Merci. Nous passons à notre premier thème de ce soir. Le ministre de la Santé a confirmé dimanche dernier une épidémie d'Ebola à Djera, dans les territoires de Boende, province de l'Équateur. En ce qui concerne les statistiques, 7 nouveaux cas ont été confirmés positifs, ce qui ramène à ce jour à 13 le nombre de personnes affectées par ce virus dans les secteurs de Djera. C'est ce qu'a confirmé le ministre de la Santé à Radio Okapi. Félix Kabange Numbi a aussi parlé des fausses alertes enregistrées dans la capitale et au Katanga. Il y rassure que pour l'heure, l'épidémie est contenu dans les seuls secteurs de Djera en province de l'Équateur. Félix Kabange Numbi est joint au téléphone par Paul Matendo.
Nous avons, au lieu de 6, nous avons maintenant 13 cas confirmés sur les 42. Le nombre de cas probables est toujours de 13 et le nombre de suspects est de 16 parce que nous avions 23 suspects. Mais sur les 23 suspects, nous avons fait 7 prélèvements et les 7 prélèvements sont positifs. Je tiens également à rappeler que le nombre de contacts suivis est de 168. Je voudrais signaler qu'on a eu des alertes. Le mercredi, on a eu une grande alerte au niveau des cliniques universitaires où nous avons eu 2 sujets. Les prélèvements ont été faits par l'Institut national de recherche biomédicale. Les résultats viennent de tomber ce soir. Les 2 cas sont négatifs. Donc je continue à confirmer, il n'y a pas Ebola au niveau de la ville de Kinshasa. Nous continuons à confirmer que les cas qui sont positifs à Ebola sont des cas qui sont situés au niveau du secteur de Djera. Je confirme encore une fois ce soir, l'épidémie est contenue au niveau du secteur Djera dans le territoire de Boende, province de l'Équateur.
Notez que c'est la 7e fois que le virus Ebola apparaît en RDC depuis 1976. Dona Madimba nous rappelle ce qu'il en était les 6 précédentes fois.
C'est en 1976, la RDC s'appelle alors Zaïre, que se manifeste pour la première fois Ebola au monde, et par conséquent au Zaïre à Yakoubou, province de l'Équateur, la maladie s'appelle Ebola Zaïre, 318 personnes seront infectées et 280 mourront. Une année plus tard, soit 1977, Ebola frappe encore au Zaïre, son nom ne change pas et là, un seul cas est signalé, l'infortuné n'aura pas de chance, il mourra. 19 ans plus tard, soit en 1995, Ebola revient une fois encore au Zaïre, arrive cette fois dans le Bandundu, touche 317 personnes et en tue 254. En 2007 et 2008, c'est le tour de Mweka 1 et Mweka 2 au Kasaï occidental. Mweka 1 touche 264 personnes et 187 d'entre elles mourront. Mweka 2, plus contenu, ne concernera que 32 personnes et n'en tuera que 14. Avant l'actuel épisode signalé seulement dimanche dernier à Djera, une fois encore dans la province de l'Équateur, il y a eu enfin la poussée 2012 à Isiro en province orientale. Celle-là, appelée alors Ebola Bundi Bugyo, avait touché 57 personnes pour en tuer 29.
Joachim Diana, je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Colombe, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. La fièvre hémorragique Ebola, confirmée dans les secteurs de Djera à l'Équateur. Votre réaction ?
Oui, tout à fait. L'analyse, disons, le rappel que vient de faire Donna est tout à fait juste. Ça montre le progrès qu'il y a au Congo. Lorsque le pays a été surpris, il y a eu un peu plus de morts, donc de centaines. Et pour la deuxième fois que l'épidémie est arrivée au même endroit, on était déjà prévenu et que ça fait moins de morts. Et vous savez que maintenant, cette fois ici, l'épidémie est contenue dans le secteur de Djéra. J'ai entendu certains confrères de certaines radios périphériques dire que présenter ce que non, il n'y a pas de médecin, il n'y a rien, et que c'est contenu parce que le coin est isolé. Non! Lorsqu'on dit qu'il y a tel nombre de cas, ceux qui ont eu de contact avec des malades, qui sont mis en isolement, c'est vrai que l'isolement du territoire est un des facteurs qui contribue à ce que la maladie ne pouve pas se prendre. Mais à part ça, il y a les efforts du ministère de la Santé qui ont fait que on a envoyé des gens, on a isolé, on identifie déjà les gens, on les a isolés. Contrairement à ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, où la maladie, pendant 3 mois, à Djéra, c'est au moins après une semaine qu'on a commencé à s'en occuper, on a mis les gens en isolement, et je suis certain que avec toutes les dispositions prises, la maladie n'ira pas plus loin comme elle est contenue. Elle sera éradiquée dans 3 mois, comme l'a dit le ministre.
Merci Marcel Ngoy, éditeur du journal La Prospérité, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Le ministre n'a pas établi des liens avec l'épidémie qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest, mais il faut reconnaître que si les dispositions avaient été prises à temps, peut-être qu'on ne serait pas entré de déplorer ce qui se passe actuellement à Djéra.
Oui, bon, il faut d'abord noter que Ebola était un virus et que ce virus n'est pas seulement une spécialité de l'Afrique. On va parler de Djéra. L'Organisation mondiale de la santé dit que le cas d'Ebola, c'est une catastrophe naturelle, donc qui frappe le monde. Il ne faut pas dire que ça sera seulement en Afrique. Il est possible que ces virus se transposent ou soient constatés aussi ailleurs, sur d'autres continents.
Est-ce que vous pensez que les États ont pris conscience
de
la gravité, n'est-ce pas,
de la chose? C'est justement cela que je voudrais dire. Autant que nous avons Ebola, qu'on a détecté à Djéra et qu'on aurait pu prendre des dispositions, autant d'autres catastrophes s'en suivent. J'ai suivi il y a 2 jours quelqu'un qui est venu nous sensibiliser sur la menace du paludisme, donc la malaria. Toutes les 30 minutes, d'après les statistiques, toutes les 30 minutes, il y a une personne qui meurt à cause de la malaria. Nous avons les sida qui tuent. Nous avons la tuberculose. Il y a
une
panoplie de maladies jadis vaincues. Mais ici, il y a une catastrophe spéciale qui demande la mobilisation tout accrue par rapport à notre politique nationale de la santé. Et donc, là, je vais parler de Djéra, un coin dans Bouéndé, dans les territoires
de Bouéndé.
De Bouéndé, oui.
Dans l'Équateur.
Et donc, dans l'Équateur, c'est pour dire que ce qui se passe à l'Équateur peut se transposer ailleurs si des dispositions ne sont pas prises. Alors, les aspects liés au désenclavement ou à l'enclavement, les formes des rivières qui servent de frontières communes, mais sachez qu'il y a des villages tout autour. Les gens qui quittent Djéra peuvent aller en dehors de Djéra. De plusieurs manières. Il y a des cousins, il y a des neveux, il y a des mariages entre les villages environnants. Donc, il faut renforcer. Il ne faut pas se contenter des limites naturelles. C'est pourquoi je salue ici, en passant, le montant d'1,5 million débloqué par l'ONU pour contribuer au combat contre Ebola. Je note aussi les 75 millions de francs CFA, de la BAD. Il y a plusieurs sommes comme ça qui sont en train d'être débloquées. L'MSF qui envoie des spécialistes, je crois qu'il faut un combat, et aujourd'hui Ebola c'est un véritable défi.
Là aussi il faut
un défi
synergie.
Qui va s'ajouter à d'autres défis comme ceux du référendum qu'on voudrait d'une manière ou d'une autre créer sur le chemin, sur le parcours du processus démocratique, d'autres défis comme ceux de la révolution de la modernité qui nécessite suffisamment de moyens. Donc la République doit mobiliser suffisamment de ressources, alors que une menace de l'isolement d'une manière ou d'une autre est en train de se profiler à l'horizon.
Merci Jean Domassi, manager de la radio communautaire de Mwanda RSM. les mesures ont été prises, notamment la mise en quarantaine du secteur de Djerra, une mesure qui semble ne pas convaincre les humanitaires qui estiment que ce qui serait beaucoup plus efficace, c'est de dépêcher des équipes sur terrain pour s'occuper des personnes affectées par cette épidémie.
Bon, moi je suis surpris, hein, ces humanitaires, c'est comme si ils sont toujours négativistes de tout ce qui se fait dans notre pays, la République démocratique du Congo. Moi j'ai beaucoup peur de la malaria que d'Ebola, parce que Ebola c'est dans un coin de la République démocratique du Congo. Personne n'a quitté le territoire de Boende pour aller en Afrique de l'Ouest et vice versa. Et c'est pour la 7e fois dans notre pays que cette maladie se signale. Donc il serait bien que notre pays n'attende pas les résultats des recherches qui se font en Europe ou en Amérique. Il apparaît clairement que ce mal sévit en Afrique et là où la forêt est dense. Qu'on organise et qu'on associe à plusieurs chercheurs de la médecine moderne et ceux même de la médecine traditionnelle qui connaissent les plantes qui guérissent certaines maladies dites tropicales, il n'est pas dit que les solutions aux problèmes de la planète en général et de l'Afrique en particulier doivent nécessairement venir de l'Occident. Donc notre implication est vraiment indispensable en tant que principaux concernés par ce mal. Alors, nous devrons nous battre pour que cette maladie ne soit plus déclarée pour la 8e fois dans notre pays. Voilà un peu la réponse que je peux donner à votre préoccupation.
Joachim Diana, il faut qu'on mobilise des chercheurs de la médecine traditionnelle. N'est-ce pas une occasion pour les Congolais d'investir dans la recherche pour mettre au point un vaccin contre cette maladie? On dit que les médecins de Kikwit, avec l'aide du docteur Muyembe de l'INRB, ont réalisé un sérum thérapie qui a sauvé 7 des 8 malades lorsque ces coins de la République avaient été affectés par cette maladie. Pourquoi ne pas approfondir des recherches?
Oui, tout à fait. Vous savez, toutes les 7 fois, on a vu le docteur Muyembe qui doit être déclaré héros contre ce Ebola-là. On devrait le mettre à la tête d'un grand laboratoire. Vous savez qu'aujourd'hui encore, on a pris les échantillons au Congo pour aller les examiner au Gabon qui n'a jamais connu cette maladie-là. Nous devrions, à ce moment-là, la maladie a commencé, je porte même les noms d'Ebola qui est le nom Ebola Zaïre. Ebola, c'est une rivière de l'Équateur. Zaïre, c'est notre ancien nom. Et donc, cette maladie, nous devrions être le premier en avant-plan pour défendre dans nos facultés de médecine et de pharmacie. On devrait se mettre en étude pour trouver des solutions à tout cela au lieu d'attendre toujours là où la maladie ne s'est jamais manifestée. Ce sont ceux-là qui se battent pour cela. Et je mets le traditionnel en garde parce que bientôt vous allez entendre qu'il y en a qui vont guérir toutes les maladies, même Ebola, parce que les traditionnalistes, eux, ils guérissent tout. Même les maladies qui n'existent pas, et ils les guérissent déjà. Donc, c'est pour dire qu'on doit mettre en garde tous ces gens-là. C'est une situation très, très, très dangereuse. Et c'est une maladie terriblement mortelle et contagieuse. Il faudrait éviter que le charlatan s'y amène. Donc, on demande que les laboratoires, le docteur Muyembe, demain, s'il disparaissait, ça sera très grave pour ce pays. Il faut déjà qu'il ait déjà toute une grande équipe, un laboratoire pas moderne, ultra moderne. C'est aussi cela une part de la révolution de la modernité pour que le Congo devienne, que même l'Afrique de l'Ouest, lorsqu'ils ont eu la situation, au lieu d'aller en Europe, aux États-Unis d'Amérique, qu'ils viennent au Congo.
Marcel Ngoyi, il y a des experts qui pensent qu'il faut insister davantage sur la sensibilisation de la population par rapport à certaines pratiques. Et comment une sensibilisation peut réussir quand on sait qu'il y a des populations qui s'accrochent à certaines pratiques, à certaines coutumes? Comment on peut arriver à convaincre ces populations-là pour qu'ils se départissent, n'est-ce pas, des coutumes qui peuvent être pernicieuses?
C'est tout à fait normal. La sensibilisation, je dis, c'est la meilleure méthode qu'il faut pour impliquer les populations à se protéger, parce qu'il s'agit de leur propre santé. On ne peut pas faire le bonheur d'un peuple sans sa propre participation. Et dans le cas d'espèce, la santé vaut son pesant d'or pour la survie de tout un peuple, de toute une nation. Et j'aimerais aussi dire que la sensibilisation doit se faire à deux niveaux. D'abord, aujourd'hui, on veut faire la sensibilisation ex post. C'est-à-dire que c'est quand c'est déjà arrivé qu'on voudrait aujourd'hui courir derrière le vent. C'est vrai qu'on va pousser les gens à des règles d'hygiène et tout ça, ça prendra encore un peu de temps. Mais il y a aussi un autre phénomène qui se développe. C'est le phénomène que nous appelons ébolaphobie. Donc, la peur de tout, raison que quand il y a quelqu'un qui fait une fièvre hémorragique, on assimile ça directement à Ebola et c'est tout le monde qui fuit dans tous les sens, y compris le personnel soignant. J'ai noté ce matin, j'ai enregistré aussi une contradiction au niveau des autorités, une note que M. Léon Kengo, le président du Sénat, aurait adressée aux sénateurs, une petite note circulaire pour dire qu'en attendant qu'on puisse voir clair en matière d'Ebola. Il est interdit aux sénateurs de se saluer par la main. Une note publiée dans le journal.
C'est authentique, c'est pas info.
Le journal Le Pouvoir, mieux connu, mieux introduit dans les milieux du Parlement là-bas. Et donc, ce journal a publié ce matin des extraits de cette lettre, de cette note circulaire signée Kengwando. Donc, ce qui contredit en quelque sorte les affirmations d'André Kimbuta Yango plutôt, et même de Félix Kabange, qui au ministère de l'Intérieur, on réaffirmait qu'Ebola n'y avait aucun cas suspect ici. Donc, autrement dit, il faudra aussi qu'au niveau de la sensibilisation, de la communication autour d'Ebola, qu'il y ait une certaine harmonisation de vue pour que, au niveau des autorités, qu'il n'y ait pas de sons discordants comme ces types de sons-là, quand on vous dit qu'il y a une note circulaire. Donc, je pense que la sensibilisation demande aussi des moyens. Et demande d'implication de la presse. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'en début de semaine,
Richard Mouyej s'est adressé
au patron de presse, au responsable des médias, pour leur demander de s'impliquer. Parce qu'il s'agit d'une catastrophe dont l'étendue des dégâts n'est pas connue d'avance. On ne sait pas exactement qui en sera sauvé, qui pourra en être épargné. Donc, c'est une catastrophe naturelle qui peut frapper. Ça frappe aujourd'hui à Diera, mais ça peut se déplacer pour sortir. Et on explique même que pourquoi on n'établit pas un lien avec ce qui se passe dans l'Afrique de l'Ouest. Parce que Ebola, qui s'est déclaré à Diera, serait parti d'un singe ou d'un gibier attrapé par un pasteur, un chasseur, pasteur, qui aurait attrapé un gibier. C'est à partir de ce gibier qui a été consommé, qui a eu la suite.
Merci.
Donc, qu'est-ce que vous dites qu'on ne peut pas attraper un autre singe dans un autre coin qui pourrait créer le même phénomène?
Jean Domassi, la RDC a appelé à l'assistance de la communauté internationale pour l'aider à combattre cette épidémie. Sur les 4 500 000 dollars du plan global, la RDC ne donne que 1 million de dollars et cela pousse certaines personnes, n'est-ce pas, à fustiger l'attitude de l'État congolais. Et on a l'impression que l'État congolais est incapable, n'est-ce pas, de débourser 4 500 000 dollars pour sauver sa population.
Oui, merci beaucoup pour cette préoccupation-là. Bon, le cas Ebola dans notre pays, ce n'était pas planifié, ce n'était pas budgétisé. C'est comme une calamité naturelle qui arrive brusquement et qui surprend les gouvernements, tout ça. Alors, bon, moi je pense que ce que le gouvernement a déboursé, ce n'est pas une goutte d'eau dans la mer. C'est quelque chose qui doit contribuer. Alors, si encore les autres veulent se mobiliser pour libérer un paquet là-dessus, ce n'est qu'une bonne chose parce que Ebola, nous devons tous nous mobiliser. Aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo et demain, ça sera encore un autre pays d'Afrique. Vous savez tout ce qui se passe en Afrique de l'Ouest avec près de 900 personnes disparues de cette maladie. Et ce n'est pas une mince affaire. Nous devons nous mobiliser tous. Mais ce que le gouvernement a libéré, bon, ce n'est pas une goutte d'eau dans la mer, c'est déjà beaucoup. S'il y a quelque chose qui manque, s'il y a des partenaires qui estiment qu'ils peuvent aider la République démocratique du Congo, ce n'est pas mal. Mais nous devons nous mobiliser tous. Même ceux qui sont dans les pays où les cas pareils n'ont jamais été déclarés. Voilà.
Joachim Diarra, quelle est la leçon que la RDC doit tirer, n'est-ce pas, de cette situation? Ne devons-nous pas prévoir un fonds pour faire face à toutes les épidémies?
Oui, tout à fait. L'épidémie qui se déclare, c'est un peu comme une guerre qu'on vous déclare. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le Congo peut être tranquille. On apprend que au Bas-Congo, là-bas, le Congo-Brazzaville vous a attaqué. Vous devez faire face. Vous ne devez pas vous dire non, puisque c'était brusquement, donc on n'a pas cherché. On doit, autant qu'on est en train de se prémunir contre une éventuelle guerre, on met notre armée en alerte, on lui achète des équipements, autant on doit en faire dans le domaine des catastrophes naturelles du genre Ebola. Maladie Ebola, comme du genre plus diluvienne. On doit être prêt. Et c'est ça. Donc on ne doit plus être surpris par tels événements. En ce qui concerne l'Ebola qui nous a frappé cette fois, il y a un proverbe bangala qui dit, je ne suis pas mongala, mais je connais le proverbe, qui dit, lorsque vous êtes un homme, vous êtes surpris par la pluie, au même endroit, vous êtes mouillé, alors que vous avez une machette avec vous, c'est que vous êtes un imbécile. C'est-à-dire quoi? Quand la pluie vous surprend quelque part, mais vous devez y construire une cabane. Puis c'est la deuxième fois que la pluie tombera, tu seras dans la cabane, tu ne seras pas mouillé. Et merci. C'est ce que nous devons faire contre Ebola aujourd'hui.
Merci. Notre dernier thème de ce soir, la synergie des syndicats de l'enseignement pose des préalables pour une rentrée scolaire apaisée sur l'ensemble du territoire national. Dans une déclaration faite à l'issue de l'Assemblée générale tenue ce jeudi à la salle Libala Mwinda, non loin du centre Lindongue sur l'avenue Université ici à Kinshasa, cette synergie demande au gouvernement congolais de mettre en application tous les accords signés. Selon le secrétaire général de la centrale congolaise du travail CCT en sigle, les cahiers des charges renouvelés de la fonction publique a été introduit depuis maintenant 4 mois au gouvernement. Pour Rachidi Modeste Kayombo, il n'est pas question que l'année scolaire 2014-2015 s'ouvre avec le même crédit de l'année dernière. Ils attendent donc un signal fort de la part du gouvernement. Rachidi Modeste Kayombo est au micro de Jacques-Yves Molima.
L'année 2015 doit être l'année de dignité, surtout que l'État congolais s'est engagé à devenir un État émergent. Le gouvernement ne doit pas jouer avec l'éducation, parce que c'est la mère de la patrie. Négliger l'éducation, ne pas y mettre des crédits suffisants, clochardiser les enseignants, ça on ne va plus accepter pour l'année 2015. Voilà pourquoi il n'y a pas de rentrée scolaire tant que le gouvernement n'aura pas dit clairement combien de crédits il met pour la rémunération des enseignants pour l'année 2015. Il s'agit ici d'éliminer toutes les extorsions qu'on fait vis-à-vis des parents. Donc, la démission du gouvernement, elle ne doit pas demeurer éternelle. Nous avons décidé qu'il n'y aura pas de rentrée tant que le gouvernement n'aura pas visiblement, avant de déposer son projet de budget à l'Assemblée nationale, montré qu'il y aura augmentation sensible des crédits pour la prise en charge d'un travail décent. Donc, l'enseignant congolais ne doit plus continuer à vivre dans la précarité.
Marcel Ngoyer, je rappelle que vous êtes éditeur des journaux La Prospérité, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Et c'est une surprise pour vous ou une situation qui était prévisible, cette position des enseignants?
C'est pas une surprise. À chaque rentrée scolaire, on assiste toujours à ce type de déclarations intempestives de la part du banc syndical. C'est tout à fait normal. Le banc syndical a un rôle, c'est de défendre les intérêts des enseignants, c'est de défendre les positions ou la position des enseignants, et c'est tout à fait normal. Et dans le cas d'espèce, il y a une ouverture, c'est de s'engager dans des discussions, dans des négociations responsables avec le gouvernement. Il ne faut pas jouer non plus avec la vie des enfants. Ces enfants ont passé 2 mois de vacances, ils doivent rêver que demain ils vont étudier. Il ne faut pas que les enseignants, à la veille de la rentrée scolaire, puissent monter les enchères à tel point que les espoirs des enfants peuvent ne pas être rencontrés. Et dans le cas d'espèce, ils doivent, comme toujours, se mettre autour d'une table avec le gouvernement pour déterminer les marges en deçà desquelles on ne peut pas passer pour que le travail s'efface. Je crois que toutes les années antérieures, ça a toujours été la même chose. Il y aura une solution, les enfants iront à l'école, et les mêmes enseignants qui parlent pourront certainement trouver une issue négociée avec le gouvernement pour que les études s'effacent. Donc il n'y a pas à se triturer les méninges pour dire que rien ne se fera. Donc les mêmes enseignants ont toujours présenté des revendications auxquelles, après des discussions, ils renoncent et ils font le travail.
Jean Dombassi,
je demeure optimiste.
Jean de Massy, manager de la radio communautaire de Moanda RSM, n'ont-ils pas raison, les enseignants, lorsqu'ils demandent que les gouvernements disent clairement combien de crédits ils mettent pour leur rémunération pour l'année 2015?
Bon, pour moi, ils n'ont pas raison, parce qu'il y a de cela près de 15 ans, depuis que nous assistons à ces mêmes scénarios à chaque rentrée scolaire. Pourquoi les syndicats attendent toujours la rentrée? L'année à plusieurs mois, ça ressemble à une machination organisée par quelques malveillants qui veulent déstabiliser les parents, qui sont déjà paupérisés et qui se sont résignés à se sacrifier pour envoyer leurs enfants à l'école. Pourquoi, moi je me pose cette question, pourquoi les syndicalistes de ce secteur ne cherchent-ils pas une autre manière de revendiquer leurs droits légitimes? Parce que la grève et le boycott de la rentrée n'a pas donné les résultats escomptés depuis qu'ils les pratiquent. Le souhait de tous est que le système de l'enseignement soit organisé à la satisfaction de tous, enseignants, parents, élèves et gouvernants. Il n'est pas besoin de rappeler chaque fois que c'est l'enfant congolais qui est la principale victime de cette guerre entre gouvernants, enseignants et parents paupérisés qui assistent la mort dans l'âme à la baisse du niveau de l'instruction de leurs enfants. Alors, chaque année, retenez que les parents payent pour un enseignement qui ne leur donne pas pleine satisfaction. Et encore, chaque année, il y a des milliers de diplômés à tous les niveaux, secondaires et supérieurs, qui viennent gonfler les effectifs de chômeurs et de refoulés dans des pays voisins où ils espèrent trouver un emploi. Donc, pour moi, ils n'ont pas raison. Ce n'est pas le moment. Voilà.
Merci. Joachim Diana, éditeur du journal La Colombe, quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Vous avez suivi Jean Dombassi, qui estime que les enseignants n'ont pas raison de formuler des revendications à la veille de la rentrée scolaire. Marcel Ngoyi, qui lui est optimiste, parce qu'il estime que c'est le même scénario qui va se produire à la veille de la rentrée. Il y a ces pressions qui sont faites par les enseignants. Et finalement, les gouvernements arrivent à trouver une solution.
Oui, les deux confrères ont totalement raison. Moi, je suis peiné que le problème aussi grave, aussi important que celui de l'enseignement, vous savez, il n'y a pas d'émergence sans une bonne éducation. Mais on le réduit à moins que rien. C'est-à-dire quoi? À chaque rentrée, les enseignants parlent et pour que on puisse augmenter leurs soldes et on pense que c'est cela la solution à l'enseignement. Non, je ne pense que ce n'est pas cela. Le problème de l'enseignement est aussi plus profond. Lorsque moi j'ai une fille qui a un diplôme d'état ici, qui va à Paris, on la ramène en quatrième année secondaire. Mais c'est un vrai problème qui doit préoccuper le gouvernement. Quel enseignement nous donnons aux enfants? Je l'ai dit au Premier ministre, construire 1000 écoles, 30 000, 50 000 écoles, il ne faut pas que ces écoles soient des tombeaux blanchis. Donc il faut qu'à l'intérieur de ces écoles qu'il y ait véritablement un enseignement. Et l'enseignement, ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que je vois les écoles qui s'alignent. Ah non, ici les enfants parlent anglais, il faut... Et ce n'est pas de cela dont on a besoin. On n'a pas les enfants bien habillés qui parlent bien français, qui parlent bien anglais. Mais non, mais on a besoin des enfants formés pour tel objectif. J'aurais même voulu que, selon les provinces, selon les possibilités économiques, techniques de chaque province, on forme plus pour que les enfants qui sortent puissent servir à quelque chose. Mais tant qu'on formera, les universités vous donnent des diplômés à l'appel, les secondaires vous pondent, même les pondeuses, les écoles sont devenues des pondeuses et des diplômés. Et mais qui ne sait à rien. Non, mais je pense que c'est ça le vrai problème. On ne doit pas à chaque année, ah non, les enseignants, on résout. On doit se poser des questions, nous allons avoir des diplômés à l'université comme secondaire, mais c'est pour quoi faire? On doit se poser cette question-là. Mais si on ne se pose pas les questions, on continue à produire, nous sommes des inconscients. Nous sommes ce qu'un auteur appelait, c'est cela le retard culturel. Le retard culturel, c'est que vous créez quelque chose dont vous ne savez que faire.
Diana, vous avez dit que le problème de l'enseignement est plus profond. Et là, vous avez fait allusion à la qualité de cet enseignement.
Tout à fait.
Vous ne pensez pas que tout est parti, n'est-ce pas, des mauvais traitements des enseignants par le gouvernement congolais?
Vous savez, Guy Maté, nous risquons risquons d'entrer dans la discussion entre la poule et l'œuf qui avait commencé avant. Est-ce que c'est l'œuf qui a d'abord sorti, mais l'œuf elle-même, elle est venue, ou la poule est venue d'où? Donc on risque d'entrer dans cette discussion de la poule et de l'œuf.
Vous pensez pas que si on améliore, n'est-ce pas, les conditions de vie des enseignants, tout peut aller naturellement?
Oui, on a l'impression qu'aujourd'hui, on
ça permet de répéter sur la qualité de l'enseignement et tout ça.
On vous dira aujourd'hui que nos députés comptent parmi les gens les mieux payés. Est-ce que le travail parlementaire que nous avons aujourd'hui est le meilleur? Non, je pense que plus que les gens ont les moyens, c'est vrai, les moyens, mais aussi la conscience. Moi, je ne peux pas me mettre, je suis devant mon papier pour écrire mon article, je l'écris mal parce que je suis mal payé. Je ne comprends pas. Guy Maté, vous ne pouvez pas venir ici biaiser votre émission parce que vous êtes mal payé. Non, je pense que bien travailler permettra de dégager les moyens et pour que nous puissions être bien payés. Tout se tient. Lorsque nous sommes en grève, ce qu'on appelle la grève passive, parce que je ne suis pas bien payé, je suis en grève, mais je ne montre pas, je suis en grève, je vais à l'école, au lieu d'enseigner les enfants, je m'assois, je suis en train de, je me mets à bailler tout le temps.
Merci. Mais
je ne permets pas au pays d'avoir de l'argent.
Merci. Marcel Ngoyi, vous ne pensez pas que les enseignants puissent avoir raison en formulant toutes ces revendications? Parce qu'il y a quand même dans la société congolaise depuis plusieurs années et des pratiques qui semblent être entretenues et qui choquent. Hein. C'est comme la prise en charge des enseignants par les parents, une pratique qui semble être cautionnée et même encouragée par les pouvoirs publics.
Oui, mais les enseignants sont aussi des parents. Ils ont raison de trouver, de se fâcher, de se sentir exaspérés par ce type de situation. Les enseignants sont des humains. Et donc, dans le cadre des besoins sociaux de base, ils ont droit à l'encadrement. Les enseignants sont en partenariat pour faire leur travail avec l'État. Les enseignants ont affaire aux élèves et les élèves et étudiants constituent l'avenir, la jeunesse constitue le devenir de la nation. Donc, en tant qu'enseignants, ils sont parents, en tant qu'enseignants, ils ont une responsabilité sur la jeunesse. Nous disons souvent que science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. Donc, en même temps qu'il faut forger des élèves et des étudiants à un niveau tel qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qu'est la nation, quelle est la conscience, qu'est-ce qu'il faut faire. En même temps, il faut les initier, bien sûr, à la nouvelle citoyenneté. Le ministère de l'Environnement, il faut initier les jeunes à la nouvelle citoyenneté. Mais il faut ajouter à tout cela la conscience. C'est-à-dire, cette conscience part du prof lui-même, de l'enseignant. La conscience part aussi du personnel administratif, ceux qui gèrent les écoles. Il n'y a pas que les enseignants, il y a ceux qui, les administratifs, les agents d'appoint, qui permettent, qui facilitent que les enseignements s'effacent. Donc, le problème, Diana vous l'a dit, est plus complexe, plus globalisé.
Vous pensez qu'il peut y avoir conscience là où les gens sont affamés?
La conscience, vous savez que ventre affamé n'a point d'oreille, ça c'est aussi notre principe. Mais nous disons que ce n'est pas seulement à la veille de la rentrée. Et une année compte 12 mois.
Et pourquoi donc les enseignants n'ont pas tort, mais c'est les moments qu'ils choisissent qui n'est pas
indiqué. C'est toujours les mêmes moments et ça ressemble plus à un chantage. Ouais. C'est plus du chantage. Pourquoi on attend qu'à la veille, la veille de la rentrée scolaire pour présenter toute une querelle, toute une ribambelle de revendications? Donc moi je pense que c'est beaucoup plus une affaire qui nécessite une intégration dans le budget. Une affaire aussi qui demande que, en partenariat avec les autorités, avec le gouvernement, même si c'est pas celui de cohésion nationale auquel on s'attend depuis bientôt une année, mais nous disons tout simplement que quelque part, il faut qu'on intègre ces préoccupations dans un plan national de revalorisation de la qualité de l'enseignement congolais.
Jean Nombassi, le pourcentage du budget 2014 affecté à l'enseignement, c'est 16,1% pour un budget de 7 milliards de dollars, ce qui n'est pas suffisant. Et Kimbuya de Sieko pense que la solution, c'est d'avoir un budget consistant avec un volet conséquent pour la rémunération. Jean Nombassi, voilà. Marcel.
Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, Monsieur Kimbuya, c'est un habitué des grèves. Il sait ce qu'il en tire. Plus d'une fois, il a été interpellé.
Mais ce qu'il dit n'est pas pertinent.
Ce qu'il dit
un budget consistant avec un volet conséquent pour la rémunération.
Oui, mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut justifier les débrayages? Est-ce que c'est pour autant qu'il faut justifier une pression presque à l'emporte-pièce contre ceux qui doivent chercher justement ces moyens? Il n'y a pas que l'enseignement comme contrainte. Aujourd'hui, nous avons Ebola, il y a beaucoup d'autres urgences. Donc, autrement dit, il faut qu'on intègre ça dans un plan. Et il faut que ça se fasse dans le cadre pratiquement d'une vision globale de la révolution.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Paul Bajayama qui était à la technique, Kéline Couté à la réalisation, sous la supervision de Martin Sebujangwe, devant ses micros Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capitale.